Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous emmène aujourd'hui à la recherche du tigre de Tasmanie, sur les pas d'une exploratrice qui s'appelle Sarah Marquis, qui publie chez Michel Lafon le récit de sa dernière aventure, J'ai réveillé le tigre. Et elle est là, évidemment. Bonjour Sarah Marquis.
Bonjour.
Vous êtes suisse.
Suisse.
Je le précise. Un mot avant de se lancer dans l'histoire. La Tasmanie n'est pas un pays mythique, c'est une île qui existe vraiment, une île-état située au large de la côte sud de l'Australie. Sarah va-t-elle trouver le tigre de Tasmanie, une espèce réputée disparue? Voici son histoire que j'ai écrite avec Christophe Dumazer. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Avant de vous embarquer avec Sarah sur les chemins de Tasmanie, il faut que je vous la présente. Sarah est suisse. Au moment où commence cette histoire, en 2018, elle a 46 ans. Depuis l'âge de 20 ans, elle marche à pied autour du monde. En 25 ans, elle a parcouru 44 000 kilomètres. À pied, l'équivalent d'un tour du globe, avec un sac de 30 kilos sur le dos. Et le soir, elle plante la tente. D'où ça lui vient ? Sarah raconte que quand elle est petite, vers ses 8 ans, elle n'a pas d'argent de poche, alors elle se met à ramasser les limaces dans le potager de ses grands-parents, les méchantes limaces qui mangent les légumes. Pour 100 limaces ramassées, son grand-père lui donne 1 franc suisse. Et quand elle a 8 francs, elle court acheter le National Geographic, le magazine américain, la Bible des aventuriers. C'est comme ça qu'elle attrape le virus, et depuis, ça ne s'est jamais plus arrêté. Et la voici à l'été 2017, chez elle, dans les Alpes suisses, en plein entraînement. Ça fait 3 heures qu'elle marche, avec un énorme sac à dos. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a des bûches de bois. Ce matin, elle en a mis 3 de plus, ça lui fait 21 kilos sur le dos. Et demain, ou après-demain, elle en rajoutera encore 2 ou 3, jusqu'à atteindre 35 kilos, sans forcer. C'est comme ça qu'elle se prépare. Elle s'arrête. Elle pose son sac, elle sort une orange, la vue est magnifique. Et à voix basse, elle dit comme à chaque fois, « Merci, merci. » Et elle redescend la crête rocheuse qu'elle a gravie en se disant, « Je ne suis pas prête, je ne suis pas encore prête. » Mon animal intérieur se réveille lentement de sa longue sieste. À chaque retour d'expédition, il se roule en boule, il se met à somnoler. Mais là, il est déjà aux aguets. Il sent que quelque chose se prépare. Et qu'est-ce qui se prépare? La prochaine expédition de Sarah s'appellera The Edge of the World, le bout du monde. Sarah veut aller à la recherche du tigre de Tasmanie, le thylacine. Enfin, s'il en reste un, parce que rien n'est moins sûr, hein, le dernier tigre de Tasmanie serait mort en 1936 dans un zoo de Hobart, en Tasmanie, une île au sud de l'Australie, l'une des terres les plus sauvages du monde. Officiellement, l'espèce est éteinte. Mais des fermiers, des marcheurs, des cyclistes en Tasmanie, dont certains portés sur la bouteille, hein, prétendent qu'ils en ont vu. Mais aucun n'a réussi à prendre de photos. Ils disent qu'il en reste, mais ils n'apportent aucune preuve. Et Sarah s'est mise en tête d'élucider le mystère. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tigre de Tasmanie, s'il en existe encore? Il a un corps de tigre, mais il a des ancêtres marsupiaux. Et donc, les femelles ont une poche pour porter les petits, comme les marsupiaux. Et surtout, le tigre de Tasmanie a une gueule énorme, une gueule qui s'ouvre à 180 degrés. Et parce qu'il décimait les troupeaux de moutons, il a été exterminé. Au début du XXe siècle, sur ordre du gouvernement, par des chasseurs de têtes. Grassement récompensé. Après sa préparation dans les Alpes suisses, Sarah Marquis débarque en Tasmanie en janvier 2018. Elle y est déjà venue, quelques mois plus tôt, pour préparer, pour se renseigner. Elle est allée au musée de Hobart, elle a rassemblé des informations, des cartes, des bouts d'histoire, elle a acheté des livres. Et à partir de maintenant, elle se donne un mois pour mettre en place toute la logistique de son expédition et enfiler, comme elle dit, son habit de combat. Elle doit notamment préparer 3 mois de nourriture d'avance. Sarah est végétarienne. Elle a fait le choix d'emporter des fruits et des légumes déshydratés. Alors elle achète des carottes, des courgettes, des herbes, du fenouil, des pommes sur le marché. Elle dégote une machine à déshydrater et elle met tout ça en sachet. Avec tout le matériel, son sac pèse 30 kilos. Et elle rajoute 5 kilos pour un pack raft, un petit raft gonflable. Et la voilà enfin prête. Comme une fois de plus, Sarah va s'engager dans une région sauvage et inviolée, le sud-ouest de l'île de Tasmanie. Elle va en profiter pour faire des prélèvements scientifiques pour un organisme australien qui s'intéresse à la biodiversité. Le responsable lui dit
« Tu sais, tu vas passer par là où très peu d'humains ont mis les pieds. Tu as une chance inouïe. Oh, j'aimerais tant venir avec toi. Tu vas aller à pied là où personne ne s'est aventuré. Reviens-nous entière, hein ?» Ok.
À quelques heures du grand départ, Sarah regarde son corps dans la glace.
Ça va. Il est solide, musclé, enrobé de 7 kilos supplémentaires que j'ai intentionnellement pris avant mon départ. Mon corps, je lui suis reconnaissante. Hein. Je suis fier de lui.
Il faut être bienveillant avec son corps. Il faut lui envoyer de l'amour. Les gens traitent leur corps comme un esclave. Moi, je lui parle. Surtout mes jambes, je les remercie après une longue journée d'efforts. Le jour du départ, un 4x4 amène Sarah sur la pointe la plus au sud de la Tasmanie. Elle est euphorique. Elle enfile son sac, oh qu'il est lourd. Mais son corps va s'habituer, elle le sait. Pendant 10 jours, pour lancer ses jambes, comme elle dit, elle emprunte un sentier qui suit la côte, sans se presser. Elle doit d'abord comprendre ce nouveau décor. L'apprivoiser. Que c'est beau! Une plage de sable fin qui s'étire sur des kilomètres, l'océan qui vient s'y fracasser, et à côté, un mur végétal avec des mastodontes centenaires, la forêt primaire. Elle se sent comme un grain de sable à ses pieds. Est-ce qu'elle va être à la hauteur? En fin d'après-midi, le ciel devient bas et gris. Sarah décide de se mettre à l'abri et elle se colle à la forêt. Et là, la pluie arrive, violente.
Mais ne croyez pas qu'elle court se mettre à l'abri, non ?
Elle pose son sac, elle s'assoit sous la pluie, les yeux fermés, et elle dit « Merci, merci !» Dans les jours qui suivent, Sarah s'enfonce à l'ouest. Avant de partir, elle a fait des recherches sur cette zone. Les rares informations qu'elle a pu récolter datent du début du siècle dernier. Pas de traces d'activité humaine, pas de ligne électrique, pas de vieilles lignes de chemin de fer, rien, juste rien. Elle cherche, elle observe cet écosystème qu'elle ne comprend pas encore. Et elle tombe sur un arbre familier, le banksia, c'est l'un de ses arbres préférés. Un arbre à l'allure préhistorique et qui fournit un nectar sucré, le dessert du bouche. Pour y accéder, Sarah se ferait un passage entre les branches, elle aspire le jus, à même la fleur. Jamais elle ne coupe la fleur, parce qu'elle sait que la nuit venue, elle se recharge. Quant à l'eau qui coule au pied des arbres, elle n'est pas très attirante, elle n'est pas limpide, loin de là. Elle est brune, rougeâtre, foncée. C'est à cause de la macération des feuilles qui tombent des arbres. Mais elle est saine, hein ? Elle est pure, elle est pleine de vitalité. Sarah progresse dans un enfer vert, avec des branches dans tous les sens, des toboggans de boue, des flaques. Elle glisse, elle se rattrape, elle tombe, elle avance. Ce matin, la pluie est timide, mais le vent a forci. Et la température a chuté. Sarah se couvre de la tête aux pieds avec son Gore-Tex, et elle arrive face à un détroit, le détroit de Naro. Elle pose son sac, elle monte sa tente et elle va s'asseoir sur un rocher pour observer l'étendue d'eau qu'elle doit traverser. Les courants, la direction des vents. Elle avait prévu de traverser avec son raft, mais ça ne va pas être possible.
La mer est trop forte, beaucoup trop forte. Mais sur la rive, il y a une barque, une grosse barque très lourde. La civilisation n'est pas loin et elle connaît la règle. De l'autre côté, il y a forcément une deuxième barque. Si elle traverse avec cette barque, elle devra la ramener avec la deuxième barque et ensuite retraverser. Elle plie sa tente. Elle enfile son legging de compression qui colle à la peau. Ce sera plus facile de nager si elle tombe. Elle fait glisser la barque et elle se glisse dessus. Et à la rame, elle s'élance dans le passage. Et arrivée à peu près au milieu du détroit, la barque devient une coque de noix. Et avec ça, beaucoup de vent. Mais ouf, la voilà de l'autre côté. Et là, elle monte sur la deuxième barque et elle remorque la première. Cette deuxième traversée est plus difficile. Le vent a forcé. Et elle revient à son point de départ. Elle dépose la première barque et elle va pour repartir. Et à ce moment-là, un bruit de moteur, un bateau. Un bateau qui sort de nulle part avec deux gros moteurs.
Bouge pas, je te remorque.
Le gars lui jette une corde. Elle grimpe sur son bateau. Et elle se retrouve dans son legging noir moulant au milieu de six personnes. Des touristes.
Hey, je m'appelle Jude, et toi?
Je m'appelle Sarah.
D'où tu sors avec tes touristes? On a un tour organisé. On arrive en avion, et puis on fait des petits tours en bateau rapide. Et moi, ben, j'arrive pas de la planète Mars, hein, comme semblent le considérer tes clients. Je suis exploratrice. Et tu vas où comme ça? Tu rentres quand? Jude, tu pourras pas me suivre. Oublie.
Ce soir-là, Sarah plante sa tente dans une forêt magnifique, protégée du vent et de la pluie. Elle trouve une source d'eau douce cachée sous les fougères. Et la nuit n'est pas encore tombée, elle est déjà dans son sac de couchage, exténuée, inerte, avec une douleur à l'épaule droite qu'elle décide d'ignorer. Les jours suivants, il pleut beaucoup. Et Sarah a mal à l'épaule. Elle est à nouveau dans la boue et soudain, elle le sent. Elle s'arrête, immobile. Elle n'en croit pas ses narines. L'odeur du tigre, forte, musquée. On ne peut pas passer à côté. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle connaît l'odeur d'un tigre qui a disparu? Eh bien, elle l'a lu. Elle a lu les récits de ceux qui l'ont vu. Et notamment, des récits de vieux Bushman vers la fin du 19e siècle. Ils ont parlé de l'odeur. Et ils ont aussi écrit que le tigre ne se montrera pas. Qu'il la suivra pendant des jours, qu'il l'observera. Près du ruisseau en contrebas, Sarah cherche des traces. Rien. Quelques semaines plus tard, Sarah installe sa tente à l'endroit même où a été capturé le dernier tigre de Tasmanie, celui qui est mort aux eaux de Hobart en 1936. Il reste une cabane. Elle y trouve des vieux journaux de 1954, une vieille gamelle. Qui a pu entretenir cette cabane depuis tant d'années? Le lendemain, Sarah vient de franchir un pont délabré. Elle se dit, tiens, je vais pêcher. Elle est en train de préparer sa ligne. Elle a un fil entre les dents. Et soudain, elle entend un raffut du côté du vieux pont. Elle lève les yeux et elle voit un grand oiseau qui bat des ailes pour échapper à un poursuivant. Et le poursuivant, elle le voit nager dans l'eau. Elle ne voit que sa tête, ça dure quelques secondes. Elle est trop loin, elle n'a pas vu les détails. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi cette grande tête? Un chien égaré? Peu probable. Un dingo? Il n'y en a pas en Tasmanie. Ça n'était pas non plus un kangourou, ni un wombat, ni un diable. C'était un tigre. C'était un tigre de Tasmanie, elle en est sûre. Mais elle non plus, elle n'a pas pu prendre de photos. Le soir, elle lui envoie un message. Je t'ai aperçu aujourd'hui. Ça me réchauffe le cœur de te savoir proche et en vie. Je suis sur ton territoire, mais je m'en vais au lever du soleil. Bon vent à toi, et à très vite j'espère. Merci, merci.
Ça fait un mois et demi que Sarah marche dans cet enfer vert. Et là, elle a quitté la forêt, dense, pour un terrain défriché. Et elle fait face à un danger terrible. Les serpentigres, Notechis cutatus, des serpents au sang froid, très venimeux, qui viennent chercher un peu de soleil. Elle vient d'en éviter six, et elle en a vu une bonne vingtaine s'enfuir dans les forêts. Et à un moment, il y en a un roulé en boule, elle manque de marcher dessus, elle l'évite de justesse. Et ce soir, alors qu'elle s'est installée à flanc de montagne, ce sont les moustiques qui l'assaillent. De l'intérieur de sa tente, elle les entend. Et elle entend les kangourous autour qui martèlent le sol de leurs pattes arrière toute la nuit pour les éloigner. Il pleut tout le temps. Sarah a l'impression de moisir de l'intérieur. Et oui, c'est difficile pour le mental et pour le corps. Mais ça va s'arrêter un jour. Quand son moral est au plus bas, elle pratique la technique dite du salami. 5 minutes de pause toutes les heures. Et après 4 heures de marche, un arrêt plus long avec un thé. Et quand c'est vraiment très difficile, des pauses toutes les 30 minutes s'il le faut. Mais la règle d'or, c'est de ne jamais abandonner. Jusqu'ici, Sarah a régulièrement croisé le pas de l'homme. Mais maintenant, elle s'engage dans une partie de la Tasmanie inviolée. Un terrain escarpé de buissons, de troncs, de rochers qu'il faut enjamber. Elle vient de monter sa tente. Un orage éclate. Le lendemain, elle plie sa tente sous la pluie et elle reprend sa marche dans un décor féerique. Un enchevêtrement de troncs, de branches, de rochers. Pour faire 100 mètres, l'effort est monstrueux. Et là, elle tombe sur des arbres fougères. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Des fougères? Les fougères ont besoin d'un terrain aéré. Elle sort sa carte, son altimètre. Son instinct lui dit qu'il y a un problème. Et son expérience lui a appris que son instinct ne la trompe jamais. Elle s'éloigne. Et là, elle s'aperçoit que la fougère cache une falaise. Un pas de plus, et elle chutait. Et la voilà maintenant au milieu d'Anodopetulum biglandum lossum. Un enchevêtrement de branches, de vrais fils de fer barbelés. Il n'y a qu'une seule solution. Escalader ces arbres et passer par le haut. En fin de journée, Sarah laisse tomber son sac. Elle n'a plus une once d'énergie. Et là débarque un nuage de guêpes. Elle défriche quelques mètres carrés à la machette. Elle monte dardard sa tente détrempée. Et elle s'écroule. Dans ce parcours du combattant sans soleil, Sarah ne parcourt plus que 3 à 4 kilomètres par jour. En marchant du matin au soir. Elle est près d'une rivière. L'idéal serait de gonfler son raft. Elle a essayé, hein. Il y a trop de rochers. Elle a chaviré. Ce matin, elle fait une nouvelle tentative. Et tout à coup, elle voit des bulles à la surface et elle voit surgir un ornithorynque, un mammifère avec un bec de canard. Elle n'en avait jamais vu d'aussi près. Merci, merci. Le soir, Sarah est en train de monter sa tente. Des sangsues lui escaladent les jambes. Elle se fait un thé, elle se prépare à manger. Et dans la nuit, elle est réveillée par un énorme bruit. Un bruit qui soulève le sol. Elle est là dans sa tente, immobile, l'oreille tendue. Et c'est le matin qu'elle comprend. Un arbre énorme, centenaire, est tombé à 100 mètres de sa tente. Et le lendemain, en marchant, elle en voit tomber un autre, comme un couperet. Elle est en train de jouer à la roulette russe. Elle hurle. « Ça suffit !» Elle a peur. Elle sait que ça la rend faible, mentalement et physiquement. « Madame la mort, je t'accepte quand tu voudras. Mais en attendant, va donc renifler l'arrière-train de quelqu'un d'autre. Signé ton exploratrice préférée. » Sarah marche sur une crête. Et là, elle tombe sur un ravin tranché dans la montagne. Elle va devoir descendre jusqu'en bas, traverser et remonter. La pente est à pic Elle doit s'accrocher aux branches. Et soudain, la lèvre du ravin cède sous son poids. Elle déclenche une avalanche de terre et de cailloux. Et elle tombe. C'est la chute. Sarah se retrouve inanimée au fond d'un ruisseau. Et c'est l'eau glacée qui lui fait reprendre connaissance. Elle lève la tête. Elle regarde au-dessus. Et elle voit un tout petit triangle de lumière là-haut. Shit. Elle se lève. Aïe! Elle a le bras qui pend. Et une douleur violente sur tout le côté gauche. Une douleur qui lui fend le crâne, si intense qu'elle cligne des yeux. Elle a dû se déboîter l'épaule. Elle doit se sortir de là, coûte que coûte. Elle agit froidement comme une guerrière. Un pas après l'autre. Il lui faut plusieurs heures pour atteindre une zone de replat où elle peut planter sa tente. Elle enlève son sac. Ah ! La douleur l'a fait hurler. Mais ça aurait pu être pire. Merci, merci. Elle monte son camp. Elle se fabrique une écharpe pour son bras. Elle fouille dans sa trousse à pharmacie. Elle a toujours un antidouleur super puissant pour ce genre de situation. Il est possible que la prise de ce médicament déclenche des épisodes psychotiques voire schizophréniques. Ne pas conduire. Elle rigole toute seule. Et elle finit par prendre un simple Dafalgan. Elle s'assoit contre son sac à dos. Elle sort son téléphone satellite. Elle va déclencher les secours. Et sur son téléphone satellite, elle appelle Vigli, une copine qu'elle s'est faite pendant la préparation de son exploration. Allô ? Vigli ?
Sarah ! Comment vas-tu ?
Pas trop bien. Je suis passé en bas d'un ravin.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?
Écoute, je te rappelle demain matin pour voir comment je me sens à froid, quoi. Ok ?
Ok, ça roule. Courage !
Le lendemain matin, à froid, la douleur s'est amplifiée. Elle ne peut presque plus bouger. Écoute, j'ai repéré une montagne. Je t'envoie les coordonnées GPS. A priori, le sommet est dégagé. Je vais essayer de grimper jusque-là. Et toi, tu contactes le pilote d'hélicoptère de Strahan. Et tu lui dis de me prendre à 17h demain au sommet de cette montagne.
Ok, ça marche.
Il ne faut pas traîner, le temps est en train de tourner. À un moment, aucun hélicoptère ne pourra se poser. Avec un seul bras, Sarah met 3 heures à plier son camp. Elle s'assoit, elle enfile son sac, elle se relève en poussant un cri. Elle a des sueurs froides et des vertiges. 6 heures plus tard, elle n'a parcouru que 1,5 km. Elle envoie un message à Vigli. Annule le rendez-vous à 17h. Reporte-le demain, même heure. À un moment, Sarah s'en mêle les pieds dans un buisson. Instinctivement, elle utilise ses 2 bras pour se rattraper. Elle hurle et elle tombe. Son épaule enfle et la douleur aussi. Alors elle se concentre sur chaque pas. La douleur lui fait mal jusqu'au nerf des dents. Et maintenant, elle est cernée de végétation. En d'autres temps, elle donnerait un petit coup de machette pour s'en sortir. Mais là, elle ne peut pas. Elle s'écroule de douleur. Elle va rester là pour la nuit. Le lendemain, Sarah se bat comme un brave. Elle serre les dents. Elle compte les pas. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. La voix l'a bloquée par des troncs. Elle hurle. « Je n'abandonnerai jamais !» Elle n'est plus qu'à 1,5 km du point de rendez-vous. Elle n'y sera jamais pour 17h. Elle appelle directement le pilote de l'hélico.
T'es où maintenant ?
Écoute, je suis dans une clairière, au pied de la montagne.
Tu sais qu'il me faut pas grand-chose hein, pour atterrir.
Combien ? Combien il te faut ?
Écoute, 25 sur 25, pas plus.
Ok, je te rappelle dans 15 minutes. Elle marche, elle calcule. La clairière fait 25 mètres de long sur 22 mètres de large. Allô, Blake ? C'est bon. Ça fait 25 sur 25.
Ok. Je suis sur place à 16h, ça te va?
Génial!
Elle étend une bâche pour que le pilote la repère, et à 16h pile, le pilote se pose du premier coup, les pales à 30 cm du buisson de devant et le rotor à 1 mètre des premiers arbres. Merci, merci. Aux urgences de l'hôpital de Burnie, on l'envoie direct à la radio.
Eh bien, je me demande comment vous avez pu supporter la douleur. La tête de votre humérus est cassée en deux, regardez. Bon, il va falloir vous reposer, hein. 6 semaines d'immobilisation.
Oh non! Non, non, non!
Ah si! Si, si, si!
Vous pensez qu'elle va abandonner? Sérieusement? Elle va finir son expédition. 7 jours plus tard, son os est calcifié, elle s'achète une petite charrette et elle repart. Un pas après l'autre, tout est possible. Rappelez-vous, vous êtes le tigre dans votre jungle.
Voilà donc pour cette histoire tirée, Sarah Marquis, de votre dernier livre qui paraît chez Michel Lafond. J'ai réveillé le tigre, il faut finir l'histoire. Ça durait encore 3 semaines de plus.
3 semaines de plus avec ma petite charrette et un seul bras.
La charrette parce que c'était plus facile, il y avait des sentiers, vous pouviez tirer la charrette.
Voilà, parce que j'étais à la fin de l'expédition. J'ai derrière moi 3/4 du trajet déjà accompli et on s'approche de la civilisation. Donc maintenant, il y a des chemins forestiers, il y a un petit peu de civilisation. Donc... Je vais pouvoir rerouter l'expédition, en fait, et puis me faufiler dans ces forêts avec un bras et pousser du côté droit seulement, laissant mon épaule un peu tranquille. Un peu tranquille, oui, mais il s'avérait qu'elle va se recasser.
Ah oui, parce que vous, le médecin vous a fait promettre une chose, quand vous revenez, vous retournez le voir. Et le résultat, c'est quoi? Dites-le.
Ben, le résultat, la calcification, c'est en fait décrocher de nouveau et l'épaule est recassée.
Et vous avez souffert pendant ces 3 semaines, je suppose?
Alors, il y avait une douleur, donc on est d'accord qu'entre la douleur initiale qui était insupportable et la douleur après immobilisation est vraiment différente parce que je suis sous tranquillisant, j'ai des dafalgans.
Ouais, j'aime bien parce que des tas de gens prendraient des anti-inflammatoires qui vous défoncent la tête, vous êtes au dafalgan.
Non, oui, ben oui, parce que je prends jamais de...
Enfin, c'est du paracétamol, hein, c'est pas de la pub qu'on fait. Mais c'est le truc qu'on prend quand on a mal à la tête, quoi.
Voilà, mais je prends jamais de médicaments, donc ça fait vraiment effet à chaque fois. Donc
vous êtes dur au mal. Je pense qu'il faut qu'on pose la salle à maintenant. Vous êtes dur au mal et vous aimez le mal.
Alors, c'est pas que j'aime le mal, mais j'ai en fait été élevée un petit peu dans la campagne. Et on vit un petit peu comme ça en campagne, c'est-à-dire qu'on sort pas quand il fait beau, on travaille quand il pleut, et on travaille la terre quand il pleut, quand il y a de la neige. Et les saisons, en fait, on n'attend pas le soleil. Et c'est vraiment... On a vraiment ce rythme avec la nature. Et donc, depuis gamine, je suis dans le jardin, pieds nus, je suis avec mes animaux, je vis avec la nature.
Et avec cette culture de l'effort.
Et avec cette culture de l'effort, justement.
Mais qui est transmise comment?
Ben, je sais pas vraiment, mais je pense que c'est vraiment mes parents.
Donc, évidemment.
Donc je viens d'une famille assez modeste du nord de la Suisse. Et puis, les vacances, il n'y a pas de vacances. On partait à camper vers une rivière qui est à 30 km de la maison. Donc, ce n'est pas vraiment des vacances. Et on campait et on était les plus heureux du monde avec mes 2 frères. Donc, j'ai un grand frère et un petit frère. Et on campait. Et qu'est-ce qu'on faisait? On pêchait. Donc, avec mes parents, le dimanche, on va marcher. Je peste durant ces longues marches qu'on fait. Et j'embête toute la famille. En l'occurrence, on me le rappelle assez aujourd'hui. Et puis, on va chercher. À chaque fois, on a une petite mission. Donc, on va aux champignons. On va chercher avec ma mère qui m'a beaucoup appris à lire le décor dès mon très jeune âge. Donc, on va chercher les plantes, on va chercher les primes verts. On va chercher de la sauge, on va chercher l'ail des ours. Quand il sort, on sait que c'est une période très courte. Donc, il y a vraiment cette sensibilisation par rapport à la nature et au rythme de la nature.
Alors, j'ai noté que vous dites « je suis une exploratrice et pas une aventurière
».
C'est différent, parce qu'exploratrice, ça suggère qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas. En l'occurrence, pendant ce voyage, on n'a pas l'impression que vous découvrez des choses qu'on ne savait pas, si?
Je découvre... En fait, c'est un petit peu comme si je passais à un niveau supérieur, puisque la mort me poursuit. La mort est à mes trousses.
Oui.
Et je pensais avoir vraiment réglé cette petite histoire entre elle et moi,
oui,
avec les années, puisque ça fait plus de 25 ans que je fais ça.
Donc vous explorez votre propre personnalité.
Mais c'est toujours,
vous êtes une exploratrice de vous-même.
Mais en fait, un explorateur, c'est ça. C'est une personne qui va au-delà de ses limites. Peu importe le décor, quelque part, le décor peut changer.
C'est soi-même qu'on explore.
Et en fait, si on est honnête avec soi-même, c'est vraiment ses propres limites, ses propres perceptions. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'être vraiment ma mission de vie. J'ai réussi à mettre des mots aujourd'hui dessus. C'est vraiment d'être ce petit pont entre la nature et l'humain et partir. Quand je suis chez l'humain, je découvre et je partage mon histoire et ma passion pour la nature. Et quand je suis dans la nature, je suis face à moi-même. Et je pars à chercher, justement. Parce que moi, je suis persuadée qu'on est capable de tellement de choses, mais tellement mieux que ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'y vais. Et c'est pour ça que j'y retourne. C'est qu'à chaque fois, je pense trouver un mur, mais il n'y a pas de mur. Il y a une petite porte. Et je rentre, et il y a un nouveau niveau.
Alors, je veux qu'on en revienne, Sarah, aux préparatifs. Vous nourrissez uniquement de fruits et de légumes déshydratés. Alors d'abord, question technique, un légume déshydraté, par exemple une courgette, vous versez de l'eau dessus et ça redevient une courgette?
Exactement.
Ça a le même goût?
Alors complètement, mais là, ça a même un peu plus de goût.
D'accord.
Je dirais. C'est vraiment, en fait, on enlève l'eau, la déshydratation enlève l'eau aux légumes.
Mais elle garde tout le reste.
Elle gâle tout le reste. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Il faut attendre un petit moment. L'eau chaude, donc, pas de l'eau froide.
D'accord.
De l'eau chaude. Et puis, elle reprend sa forme initiale. Toutes les fibres sont là.
Et les qualités nutritives sont là aussi.
Les qualités nutritives sont là. Elle perd un petit peu donc, dans le processus, mais pas autant que si on la cuisait dans de l'eau chaude.
Alors, évidemment, question. On parle en ce moment beaucoup des végétariens, puisque vous êtes végétarienne.
Mm-hmm.
Et on dit souvent que le problème des régimes végétariens, c'est qu'ils sont carencés.
Mm-hmm.
Et là, vous faites des efforts incroyables.
Mm-hmm.
On peut affronter des efforts comme ceux-là uniquement en mangeant des fruits et des légumes? Ou
alors,
est-ce que vous complémentez avec des produits en poudre qui vous apportent ce qui manque?
Alors, surtout pas ça. Ce qui est important de comprendre dans la nutrition, c'est qu'il faut, il faut de la vie. Donc les produits en poudre, il n'y a plus de vie dedans.
Oui.
Donc, en l'occurrence, dans cette expédition-là, j'ai en complément, bien entendu, tout ce qui est les hydrates de carbone.
Et donc il y a un peu de poudre.
C'est pas quoi, du tout. Non. Les hydrates de carbone, c'est du sarrasin.
Oui.
C'est de la quinoa. C'est des pâtes complètes.
Et ça complémente.
Et j'ai de la farine complète où je vais pouvoir faire du pain sans levain sur mon petit réchaud. Donc moi, je suis végétarienne depuis l'âge de 11 ans. Voilà.
De votre propre initiative ou sont vos parents qui vous amènent là-dessus?
Ah non, pas du tout. Mes parents, c'est des gens.
On
fait la bouche-voyade et compagnie. Donc quand j'ai compris que je mangeais mon pote le mouton. Ma meilleure amie qui s'appelait la Moumou, quand j'ai compris que c'était la saucisse que je mangeais, c'était elle, j'ai vraiment fait le lien entre la vie et ce que j'avais dans mon assiette. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus manger de viande. À l'heure actuelle, je suis végane depuis un an maintenant.
Ah, maintenant vous êtes végane.
Voilà,
vous avez
exactement.
Poussé encore plus loin.
Voilà.
Quelle est votre quête dans ces explorations? J'ai envie de dire, c'est presque la question centrale. Bon, vous faites des prélèvements scientifiques, vous le dites. Vous écrivez des articles pour le National Geographic. Mmh. Vous avez publié un papier là-dessus, sur ce voyage-là.
Voilà, il y a
un
papier.
Vous faites des livres et ensuite vous faites des conférences.
Mmh.
Mais je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement l'axe central de votre quête. Ça, c'est pour vivre, c'est pour financer vos expéditions. Mais la vérité?
Ma mission à moi, c'est vraiment cette petite... C'est très important. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai tellement découvert la nature, donc ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai passé la moitié de ma vie en fait à dormir dans une tente, pour être très clair, et à faire pipi derrière un arbre.
Pour être très clair. La moitié de votre vie.
La moitié de ma vie en fait, voilà. Donc pour être très clair dans les proportions, et à chaque fois que j'y retourne et que je vis proche de la terre, il y a vraiment un espèce de pelage qui s'installe, comme si on a, où je changeais de peau. Où cette femme ici que vous voyez aujourd'hui, elle n'existe pas dans la nature. Je perds mon identité féminine, je perds mon identité, la religion que j'ai, je continue de peler cette peau, tout ce que je connais, je
vous
dois l'abandonner.
Quoi, la symbiose avec la nature?
Alors, je cherche rien, et ça s'impose. Et tout ça pour dire que nous, on a besoin de la nature. On peut pas faire sans la nature. C'est-à-dire que c'est comme si on a
des tas de gens font sans.
Qui?
Ceux qui vivent en ville.
Mais non, ils en ont besoin, ils sont sensibles à la nature, ils sont sensibles aux petites arbres, ils veulent aller sur la terrasse, se dorer au soleil. Mmh. Et sans le savoir, ils en ont besoin. Sans le savoir, ils font les petits lézards.
Donc votre quête est un peu égoïste.
Ma quête, elle est très égoïste quelque part, mais en même temps, plus je pratique cette symbiose avec la nature, ce retour à cette connexion symbiotique avec cette nature dont on a besoin, eh bien plus j'aime les humains.
Ah. Ah bon, voilà. En général, c'est à l'inverse
c'est
qu'on
l'inverse,
arrive
comme
conclusion.
Là,
on dit, plus je vois les animaux, plus je fréquente les animaux, plus je fréquente la nature, plus je déteste les humains.
Parce que j'ai fait le chemin d'aller au fond de moi-même, de voir mes petits démons, de voir mes beautés, de voir... je parle de mon corps avec beaucoup d'amour. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est magique derrière cette introspection, c'est que on remarque qu'on est tous la même chose. On remarque qu'on a tous... quelque part les mêmes soucis qui sont... La vie est basique, la vie est simple. Et ces besoins basiques et simples, en fait, on a tous les mêmes rêves, on est tous fait la même chose. Et le fait d'être allé au fond de tout ça et de revenir, me fait vraiment aimer l'humain, peu importe le grognon, le pas sympa, celui qui sourit, celui qui est cool, celui qui est pas cool, peu importe, je crois que j'arrive à me connecter à l'autre avec cette lumière du cœur. Et c'est beau. Et je le souhaite à tout le monde, en fait. C'est ça qui...
Il y a quelque chose qui est... C'est un miracle de la radio, les gens ne vous voient pas. Mais il y a aussi, pardon, moi, je ne prenez pas ma remarque comme une remarque sexiste, mais vous êtes ce qu'on appelle une belle femme, vous êtes élégante, vous êtes maquillée, on voit d'ailleurs, on le perçoit, parce que Jude, là, quand vous le croisez...
mais je suis pas maquillée quand il me voit.
Il vous drague, en vérité.
Oui, oui.
Il ne rêve que de passer la soirée avec vous. Vous avez conscience du décalage qu'il y a entre l'image qu'on peut se faire de vous, aventurière, et l'image que vous présentez là, dans notre vie civilisée. Il y a un décalage incroyable.
Alors je l'ai souvent subi, ce décalage.
Oui.
J'ai souvent subi. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais non, mais c'est un avantage, en fait. Je l'ai pas pris dans le bon sens au début. Puis, avec les années, j'ai compris que c'était une force de montrer la flexibilité de la femme, de montrer, écoutez, les filles, tout est possible. Regardez, j'arrive à être comme ça aujourd'hui.
Oui.
Et j'arrive aussi à être l'animal dans la nature, à survivre, à sniffer mon passage, à sentir ma prochaine proie, à réussir à me nourrir.
Et à vivre avec les sangsues, les guêpes.
Et à vivre avec les sangsues, les guêpes, peu importe.
Tigres.
Et c'est là où je fais mon point. C'est-à-dire que c'est important d'aller au fond de soi-même parce que, en fait, la beauté, elle n'est pas là où on pense.
Alors, justement, ce tigre de Tasmanie, Sarah, d'abord, disons les choses, ça n'est pas un tigre, en vérité. On l'appelle tigre parce qu'il est tigré, mais sa souche n'est pas tigre.
Non, c'est un marsupial, en fait.
Ouais.
Alors, il faut remonter à 160 millions d'années. Les continents étaient collés l'un à l'autre, hein, dans cette partie sud de la Terre. Et puis, après, dans une partie de l'histoire qui s'appelle Gondwana Time, eh bien, les continents se sont séparés pour former ce qu'on connaît aujourd'hui de la Tasmanie. Donc c'était cette petite larme qui est une petite île au sud du continent principal, qui est massif.
Oui.
Donc ce qui est magique dans cette terre, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que toutes les plantes que j'ai pu rencontrer, c'est encore des plantes de ce temps-là.
Oui.
Voilà. Et
qu'on
donc,
ne trouve que là.
Qu'on ne trouve que là. Et c'est endémique à cette petite poche.
Et le tigre de Tasmanie
et
aussi.
Et le tigre aussi. Ce qui est magique, c'est qu'avant, il remontait jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait une population, donc on parle de, il y a des millions d'années. Puis après, il était sur l'île principale, le continent principal, l'Australie, comme on l'appelle. Puis il s'est extinct, et puis pour une raison qu'on ne sait pas encore, il est resté dans cette petite poche qui est cette île de Tasmanie.
Alors, vous l'avez vu ou pas? Parce que là, il y a un truc qui est toujours assez marrant, c'est « je ne suis pas sûr, mais c'était un tigre de Tasmanie ». Vous l'affirmez aujourd'hui.
Mais je veux vous
il
le,
en reste un.
Je vais vous le dire, et le tigre est dans le livre.
Oui.
Voilà.
Oui.
Oui.
J'adore.
Eh ben oui.
Mais ça ne répond pas à ma question.
Non, mais je ne vais pas répondre à votre question.
Vous n'avez pas la photo.
Je ne vais pas répondre à votre question.
Et on est coincé par ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas la première à dire je l'ai vu, mais vous ne pouvez pas nous le prouver.
C'est intéressant de voir que ce tigre, en fait, qui n'en est pas un, mais qui a. Cette bête fait partie d'une espèce de mythe, puisque moi, j'ai vraiment étudié tous ces récits historiques. J'ai rencontré des gens qui étaient spécialisés sur cet animal. Donc, pour être très clair, il a une poche.
Oui.
Il porte ses petits dans une poche qui s'ouvre, non pas dessus, à l'avant, mais à l'arrière, pour que les petits puissent, en fait, ne pas recevoir les branches quand ils courent.
D'accord, elle est ouverte vers l'arrière.
Vers l'arrière, comme les wombats, d'ailleurs.
Oui.
Donc, les wombats, le diable de Tasmanie, qui est un petit carnivore incroyable noir avec le bout de la queue blanche, plus le tigre de Tasmanie, fait partie de cette famille. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Hein.
Est-ce que c'est un mythe ou pas? Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est-ce que le tigre de Tasmanie est un mythe? Ou est-ce que, sincèrement, vous êtes certaine qu'il en existe encore au minimum un couple? Parce qu'il ne peut pas survivre un individu sans possibilité de se reproduire.
Alors, le tigre de Tasmanie, sa force à lui, c'est qu'il n'a pas de territoire, mais qu'il chasse, en fait, par couloir. Donc, il a des couloirs de chasse, donc il ne retourne pas. En fait, pourquoi on n'a pas encore d'image à l'heure actuelle, mais qu'on a réussi à le voir, c'est pas un animal qui va retourner au même endroit.
On peut pas l'attendre.
Non, exactement.
Planquer.
Donc vous allez le voir au bord de ce petit ruisseau vers un arbre.
Et ensuite il sera là.
Voilà.
Il reviendra
et
pas là.
Il va pas revenir là. Il va continuer justement. Et c'est ça qui le rend vraiment très très mystérieux quelque part et qui lui a donné cette petite image de furtif et lucide. Enfin, on a plein d'adjectifs pour le qualifier.
Vous êtes sûr que c'était son odeur? Ça, c'est extraordinaire.
J'adore
le passage sur l'odeur.
J'adore votre côté très.
Bah, c'est-à-dire que je me dis que parfois, on a tellement envie.
Vous êtes déjà allé dans la nature.
Oui.
Et vous avez déjà senti l'odeur d'un sanglier.
Non.
Voilà. Alors, l'odeur d'un sanglier, c'est un musc. C'est l'animal. On sent les poils mouillés. Ouais. C'est une odeur tellement forte qui croche au fond de la gorge. Il n'y a pas pareille odeur sur cette planète. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. L'odeur du tigre, c'est celle-là, en foison.
Dernière question concernant le merci, parce que je me suis posé beaucoup de questions au moment d'enregistrer.
Oui.
Je ne savais pas s'il fallait dire merci ou merci. Comment vous le dites, vous?
Merci.
Bout à bout comme ça.
Bout à bout.
C'est une sorte de mantra.
C'est en fait, dans la vie, les scènes s'enchaînent et ça continue. Donc, on n'a plus cette conscience de la magie qui s'opère dans nos journées, aussi petite soit-elle. C'est important pour moi de... Vous courez après votre bus, le bus s'arrête. Ah ben, c'est une petite victoire. Il faut célébrer ces petites victoires. Et puis moi, ce merci, c'est vraiment un merci à l'univers, c'est un merci à tout. Je suis heureuse d'être en vie aujourd'hui. Et cette célébration à la vie, je n'oublie pas de la célébrer.
J'ai réveillé le tigre de Sarah Marquis, paraît aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup, Sarah.
C'est vraiment moi qui vous remercie du fond du cœur d'être là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.